Quel que soit le degré d'exotisme atteint par la civilisation, quels que soient les développements de l'existence et de la société ou la complexité des rapports homme-machine, il existe des interludes de pouvoir solitaire durant lesquels l'évolution de l'humanité, son avenir, dépendent des actions relativement simples de certains individus. D'après le Livre Saint d'Etléilaxu. Il traversait à pied le viaduc qui reliait la citadelle au bâtiment de la Cuisarate. Le crépuscule approchait et Paul marchait entre les ombres allongées qui le dissimulaient à demi, mais des regards avertis pouvaient reconnaître sa silhouette. Il se mit à boitiller. Il portait un bouclier, mais il ne l'avait pas activé, ses hommes ayant décidé que le scintillement de l'énergie pourrait éveiller les soupçons. Il jeta un coup d'œil à sa gauche. Des strates de nuages chargés de sable dérivaient vers le couchant. L'air avait la sécheresse guérègue, même dans les filtres du distill. Paul n'était pas réellement seul, mais jamais le réseau de surveillance personnelle n'avait été aussi lâche. Des ornithoptères munis de détecteurs nocturnes planaient en altitude sans ordre apparent. Ils étaient rattachés à sa personne par l'émetteur dissimulé dans ses vêtements. Dans les rues, des hommes soigneusement sélectionnés s'étaient dispersés. D'autres patrouillaient la cité. Tous connaissaient le déguisement de l'empereur. Distille, bottes témag, peau assombrie, joues déformées à l'aide de tampons de plastène. Un tube récique pendait sur le côté gauche de son visage. Il atteignit l'extrémité du viaduc et se retourna. Il surprit un mouvement derrière le treillis de pierre qui dissimulait un des balcons de ses appartements. Shiny. Sans aucun doute. Tu vas chasser le sable dans le désert, lui avait-elle dit à l'instant de son départ. Elle ne comprenait pas le choix amer qu'il avait dû faire. Choisir entre toutes les souffrances, se dit-il, rendait les petits chagrins presque intolérables. En un bref moment, flou et douloureux, il revécut son départ. Dans les dernières secondes, Shiny avait eu une fugace vision tôt de ses émotions, mais l'avait mal interprétée. Elle avait cru qu'il éprouvait ce qu'éprouve l'amant qui s'en va affronter seul le dangereux inconnu en quittant sa bien-aimée. « J'aurais voulu l'ignorer », se dit-il. Il quitta le viaduc et pénétra par la chaussée supérieure dans le grand bâtiment de la Cuisarate. À la clarté des brilleurs, les gens se hâtaient vers leurs tâches. La Cuisarate ne connaissait pas le sommeil. Le regard de Paul se posait sur chacune des enseignes qui apparaissaient au-dessus des portes, et il lui semblait que c'était la première fois qu'il les lisait. Marchand de chance, alambic et distillation, recherche prophétique, épreuve de foi, fourniture religieuse, armurerie, propagande de la foi. Propagande de la bureaucratie eût été plus honnête, songea Paul. L'univers avait été envahi par un type particulier de fonctionnaires civils religieux. Ces nouveaux convertis de la Cuisarate cherchaient rarement à déloger les Fremen des postes clés. Ils emplissaient les interstices. Ils usaient du mélange tout autant pour ses pouvoirs gériatriques que pour prouver qu'ils pouvaient se l'offrir. Ils se tenaient à l'écart des gouvernants, empereurs, guildes, Bene Gesserit, Landsrad, familles aussi bien que Cuisarate. Leur dieu était la routine et les archives. À leur service, ils avaient des mentats et de prodigieux systèmes de classement. Efficacité était le premier terme de leur catéchisme. Mais ils invoquaient bien sûr les préceptes des butlériens. Les machines, disaient-ils, ne pouvaient être conçues à la ressemblance de l'esprit humain, mais chacun de leurs actes révélait qu'ils préféraient de loin les machines aux hommes, les statistiques aux individus, les vues générales et abstraites à l'approche personnelle par l'imagination et l'initiative. Comme ils s'engageaient sur une nouvelle rampe d'accès de l'autre côté du bâtiment, Paul entendit les cloches de l'hôtel d'Alia qui appelait les fidèles pour le rite du soir. Ce son avait quelque chose d'étrangement permanent. Le temple qui se dressait à l'autre extrémité de la place était de construction récente. Il était contemporain des rites qu'il abritait. Mais sa situation par rapport à Arrakeen, au seuil du désert, la disposition des maisons proches, tout concourait à donner l'impression d'un lieu ancien, riche de traditions et de mystères. Les murs de pierre et de plastène, érodés rapidement par le vent chargé de sable, avaient une apparence millénaire. Brusquement, Paul se retrouvait englouti dans la foule. le seul guide que les hommes de la sécurité eussent réussi à découvrir, avait insisté pour qu'il en fût ainsi. Paul avait immédiatement accepté, ce qui n'avait pas été du goût des hommes de la sécurité, ni de Stilgar, et encore moins de Shiny. Les gens l'entouraient, le pressaient de tous côtés, lui accordaient un bref regard et passaient leur chemin, lui procurant une curieuse impression de liberté. Il savait que c'était ainsi qu'on leur avait appris à se comporter vis-à-vis des Fremen. Il avait l'apparence d'un homme du désert profond. De tels hommes étaient prompts à la colère. Au fur et à mesure qu'il approchait des marches du temple, la foule se faisait plus oppressante. Ceux qui le bousculaient involontairement prononçaient les excuses rituelles. « Pardonnez-moi, très noble, je ne suis point responsable de cette discourtoisie. Pardon, noble, c'est la pire bousculade que j'ai jamais connue. Je m'abaisse devant vous, citoyen saint. Ce lourdeau m'a poussé. » Après quelques instants, Paul finit par ne plus entendre ces mots. Il ne recelait d'autre émotion que la crainte religieuse. Il se mit à penser à l'étrange et long chemin parcouru depuis son enfance sur Caladan. Quand avait-il fait son premier pas sur ce sentier qui traversait maintenant cette place noire de monde, si loin de Caladan? Avait-il seulement fait ce premier pas? Il n'aurait su dire s'il lui était advenu d'agir pour une raison spécifique durant toute son existence. Les motivations et les forces qui s'étaient affrontées étaient complexes, sans doute plus complexes que toutes celles de l'histoire humaine. Il avait encore le sentiment exaltant qu'il pouvait échapper au destin qu'il discernait si nettement au bout de ce sentier. Mais la foule continuait de le pousser de l'avant et il eut soudain l'impression affolante d'avoir perdu son chemin, de n'avoir plus aucune influence sur sa vie. La foule montait avec lui vers le portail du temple. Les voix devenaient moins fortes. Le parfum de la peur devint comme une odeur puissante et âcre de sueur. À l'intérieur du temple, les répondants avaient déjà commencé le service. Leur plein chant dominait les chuchotements, les froissements d'étoffes, les bruits de pieds et les toussotements. Ils racontaient l'histoire des lieux lointains visités par la prêtresse dans sa sainte transe. Elle chevauche le ver des espaces. Elle nous guide à travers les tempêtes. Jusqu'aux terres où sommeillent les vents. Nous dormons dans l'antre du serpent, mais elle veille sur nos rêves. Elle nous cache des feux du désert dans la fraîcheur d'un creux. Ses dents blanches nous éclairent quand nous marchons dans la nuit. Par les tresses de ses cheveux, nous escaladons les cieux. Par elle naissent les parfums. Balak, songea Paul en Fremen. Attention, par elle peuvent aussi naître la passion et la fureur. Sous le porche étaient alignés des brilleurs verticaux et minces, imités des cierges anciens. Leur clarté vacillante éveilla dans l'esprit de Paul des souvenirs ancestraux, bien qu'il sût que tel était le but visé. C'était là un cadre atavique, subtilement conçu, efficace. Il avait participé à ces choses et il en éprouvait de la haine envers lui-même. Avec la foule, il franchit l'immense portail de métal et pénétra dans la nef caverneuse. Très loin, l'autel brillait à l'autre extrémité. Au sommet de l'ombre, dans les hauteurs de la nef, des lumières clignotaient comme les cierges brilleurs. L'autel, très simple, avait été taillé dans un bois noir incrusté de motifs de la mythologie Fremen sur le thème du sable. Au-delà, les lumières jouaient sur le champ protecteur d'une porte, suscitant des arcs-en-ciel. De part et d'autre de ce rideau évanescent, les sept rangs de répondants offrait une image sinistre. Robe noire, visage blême, bouche s'ouvrant à l'unisson. Paul observa ensuite les pèlerins qui l'entouraient. Il avait brusquement envie de leur ressembler, d'écouter avec la même intensité, de prêter l'oreille à ces vérités qu'il ne percevait pas. Il lui semblait qu'il bénéficiait ici de quelque chose qui lui était refusé, quelque chose qui soulageait mystérieusement. Il essaya de se rapprocher un peu plus de l'autel et une main se posa sur son bras. Il regarda rapidement autour de lui et rencontra les yeux inquiets d'un vieux Fremen. Des yeux bleus sous des sourcils épais. Des yeux d'Ibad qui le reconnaissaient. Un nom jaillit aussitôt dans son esprit. Rassir, un compagnon des jours du siège. Il se rendait compte que dans cette foule, il était totalement vulnérable. Si toutefois Rassir entendait user de violence. Le vieil homme se rapprocha encore de lui. Il avait glissé une main sous sa robe. Il tenait un kris, cela ne faisait pas le moindre doute. Tant bien que mal, Paul se prépara à l'attaque. Mais Rassir pencha la tête et murmura à son oreille « Rejoignons les autres ». C'était le signal de reconnaissance du guide. Rassir déjà se retournait vers l'hôtel. « Elle vient de l'Orient !» chantaient les répondants. « Le soleil est derrière elle. Chaque chose est révélée. Dans le plein éclat de la lumière, rien n'échappe à ses yeux, clair ou sombre. » La plainte d'une rébaba jaillit au-dessus des voix, les domina, les réduisit au silence. Brusquement, presque électriquement, la foule s'avança de plusieurs mètres. La masse de chair se fit encore plus dense et plus dense encore la senteur d'épices dans l'air tiède. « Shai Hulud écrit sur le sable vierge !» clamèrent les répondants. Paul sentit son propre souffle se mettre à l'unisson des autres. Derrière le rideau diapré de la porte, un cœur féminin psalmodia « Alia, Alia, Alia !» Les voix s'élevèrent puis se turent brusquement. Le silence régna pendant un instant, puis d'autres voix reprirent. Elle calme les tempêtes et son regard tue l'ennemi et tourmente l'impie. Depuis les spires de Tuono, d'où l'aurore jaillit et d'où ruissellent les eaux, son ombre apparaît. Dans le brasier de l'été, elle nous sert le pain et le lait, avec la fraîcheur, la douceur des épices. Ses yeux balaient l'adversaire et chassent l'oppresseur. Ses yeux percent tous les mystères. Alia, 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 Alia. Doucement, les voix se turent. Paul était gagné par un malaise. « Que faisons-nous ? » se demanda-t-il. Alia n'avait été qu'une enfant sorcière, mais les années passaient et elle grandissait vite. « Grandir, » songea-t-il, « c'est devenir plus redoutable. » L'atmosphère mentale du temple s'infiltrait dans sa psyché. Il percevait en lui cet élément qui ne faisait qu'un avec les esprits alentour. Mais les différences formaient une mortelle contradiction. Il était immergé, isolé dans un péché personnel que jamais il ne pourrait expier. Il percevait l'énormité de l'univers autour du temple. Comment un homme, comment un rite pourrait-il jamais façonner une telle immensité aux mesures de l'homme? Il eut un frisson. L'univers s'opposait à lui à chacun de ses pas. Il échappait à son étreinte et revêtait mille déguisements pour le tromper. Jamais l'univers ne se plierait à la forme qu'il voulait lui donner. Une vague de chuchotements parcourut le temple. Un silence total s'établit. Alia émergea des ténèbres, franchit le rideau d'arc-en-ciel. Elle portait une robe jaune brodée de vert. Le jaune pour la lumière du soleil, le vert pour la mort qui engendrait la vie. Brusquement, Paul se dit qu'Alia n'était apparue que pour lui seul. Et c'était là une pensée infiniment surprenante. Par-dessus la foule, son regard se fixa sur sa sœur. Sa sœur. Il connaissait le rite et ses origines, mais jamais encore il ne s'était retrouvé ainsi, mêlé aux pèlerins, l'observant avec leurs yeux. La découvrant maintenant en ce lieu de mystère, il comprenait qu'elle faisait partie intégrante de cet univers qui s'opposait à lui. Des acolytes firent leur apparition et présentèrent à Alia un calice d'or. Elle le prit et le leva. Dans la partie intacte de sa conscience, Paul savait que ce calice contenait le sacrement de l'oracle, le mélange pur, le subtil poison. Et Alia prit la parole, les yeux fixés sur le calice. Et sa voix était caressante aux oreilles, douce et musicale, vibrante et colorée. Au commencement, nous étions vides. Ignorants de toutes choses, chantèrent les répondants. Nous restions étrangers à la puissance qui réside en tout lieu et en tout temps. Voici la puissance, reprit Alia en élevant légèrement le calice. Elle nous apporte la joie, psalmodia le cœur. Et aussi la détresse, songea Paul. Elle éveille l'âme, dit Alia, et disperse les doutes. En ces mondes, nous périssons. Par la puissance, nous survivons. Alia porta le calice à ses lèvres et but. Comme le plus humble pèlerin de l'assistance, Paul se surprit à retenir son souffle. En dépit de tout ce qu'il savait de la cérémonie et de l'expérience que vivait Alia, il était pris dans la trame du taux. Il se souvenait du flux ardent du poison dans l'organisme. Il revivait l'éveil dans cette zone de non-temps où toute chose était possible, la perception en transformant la structure même du poison. Il savait qu'il connaissait l'expérience que sa sœur vivait, mais dans le même instant, il se rendait compte qu'il ne la comprenait pas. Le mystère du rite était un voile sur ses yeux. Alia trembla et tomba à genoux. En même temps que les autres pèlerins, Paul exhala et hocha la tête. Une partie du voile se déchirait. Absorbé dans une vision, il avait oublié que chaque vision appartenait à tous ceux qui étaient encore sur le chemin, encore à venir. Dans la vision, on traversait une zone de ténèbres où l'on ne pouvait distinguer la réalité de l'accident insubstantiel. On éprouvait la soif d'absolu qui jamais ne serait. Éprouver semblable soif, c'était perdre le présent. Sous le choc de la transformation de l'épice, Alia vacilla. Paul eut brusquement conscience de quelque présence transcendante qui, s'adressant à lui, déclarait « Vois, regarde, regarde ce que tu as ignoré. » En cette seconde, il vit par d'autres yeux. Il pensa qu'il voyait des images, des rythmes que nul poète, nul artiste n'aurait pu reproduire. Il vit une clarté éblouissante, vivante et belle, qui révélait la voracité du pouvoir et la sienne. La voix d'Alia s'éleva sous la vaste nef. « Nuit lumineuse !» Une plainte sourde courut au sein de la foule. « Rien ne peut se cacher dans une telle nuit !» reprit Alia. « Quelle lumière dans cette nuit ! On ne peut vraiment la regarder ! Nos sens ne peuvent la percevoir ! Nul mot ne peut la décrire !» Sa voix baissa d'un ton. « L'abysse demeure, plein des choses à naître. » Ah, quelle douce violence !» Paul eut conscience qu'il attendait quelque signal privé de sa sœur. Un geste, un mot, un élément mystique et sorcier, une effusion qui l'envelopperait, le fixerait comme une flèche sur un arc cosmique. Cet instant, il le percevait en lui comme une flaque vibrante de mercure. « Il y aura du chagrin !» psalmodia Alia. Je vous rappelle que toute chose est commencement, commencement à jamais. Des mondes attendent d'être conquis. Certains de ceux qui perçoivent ma voix connaîtront des destinées exaltantes. Vous renierez le passé, vous oublierez ce que je vous dis maintenant. Dans toute différence, il y a unité. Alia baissa soudain la tête et Paul faillit laisser échapper un cri de déception. Elle n'avait pas prononcé les paroles qui l'attendaient. Tout à coup, son corps n'était plus qu'un coquillage desséché, une carapace abandonnée par un insecte du désert. D'autres devaient éprouver le même sentiment, se dit-il. Il devinait une tension nouvelle autour de lui. Loin dans la nef, quelque part sur la gauche, une femme poussa un cri d'angoisse. Alia releva la tête et Paul eut l'impression que son regard annulait la distance qui les séparait, que les yeux de sa sœur n'étaient plus qu'à quelques centimètres des siens. « Qui m'appelle ?» demanda-t-elle. « Moi !» cria la femme invisible. « C'est moi qui t'appelle, Alia. Aide-moi. Ils disent que mon fils a été tué sur Muritan. Est-il parti pour toujours ?»« Tu essaies de revenir sur tes pas dans le sable, » répondit Alia. « Rien n'est perdu. Tout revient plus tard. Mais il faut reconnaître la forme changée qui nous revient. »« Alia, je ne comprends pas. » implora la femme. « Tu vis dans l'air, mais tu ne le vois pas. Es-tu un lézard ? Il y a l'accent frémen dans ta voix. Les frémen essaient-ils de ramener les morts à la vie ? Qu'attendons-nous d'eux, si ce n'est le rô ?» Au centre de la nef, un homme vêtu d'une somptueuse cape rouge leva les deux mains, révélant les manches de sa tunique blanche. « Alia, on vient de me proposer une affaire. Dois-je l'accepter ?
Tu viens ici tel un mendiant. Tu cherches la coupe d'or, mais tu ne trouveras qu'une dague.
« On m'a demandé de tuer un homme !»
lança une voix, quelque part à droite, une voix grave qui avait l'accent des sièges.
« Dois-je accepter ? Et réussirai-je ? »
« Le commencement et la fin sont une seule et même chose !»
lança Alia.
« Ne t'ai-je pas déjà dit cela auparavant ? Tu n'es pas venu ici pour poser cette question. Qu'y a-t-il donc que tu ne puisses croire pour venir ainsi et crier ?
Elle est de bien méchante humeur ce soir,
murmura une femme tout près de Paul.
Est-ce que vous l'avez déjà vue aussi furieuse ?
Elle sait que je suis là, songea-t-il. Est-ce donc ce qu'elle a découvert dans sa vision qui provoque sa colère ? Et cette colère est-elle dirigée contre moi ?
Alia !
Appela un homme à quelques pas devant Paul.
Dites donc à ces hommes riches et sans cœur combien de temps encore votre frère régnera.
Je t'autorise à voir par toi-même. Tes paroles portent leur propre préjudice. C'est parce que mon frère chevauche le ver du chaos que vous avez de l'eau et un toit.
Avec un geste sauvage, elle rajusta sa robe, pivota sur elle-même et replongea dans la lumière diaprée de la porte. Aussitôt, les répondants entonnèrent le chant ultime de la cérémonie, mais leurs voix n'étaient pas à l'unisson. Il était évident que la conclusion inattendue du rite les avait déconcertés. Des murmures s'élevaient de la foule. La tension que Paul avait perçue auparavant était devenue mécontentement, inquiétude.
C'est à cause de cet imbécile avec sa question à propos de ses affaires. Hypocrite !
Qu'avait donc vu Alia ? Quel sentier du futur avait-elle suivi ? Il était arrivé quelque chose ce soir. Le rite de l'oracle avait été perturbé. Habituellement, la foule attendait d'Alia des réponses à ces questions pitoyables. Les pèlerins venaient en mendiant.
Oui, en mendiant.
Paul les avait trop souvent entendus, dissimulés derrière l'autel. Que s'était-il passé de différent ce soir ? Le vieux Fremen le tira par la manche en désignant la porte. Déjà, la foule commençait à s'écouler dans cette direction. Paul se mit en marche, plongeant à nouveau dans la marée des corps. La main du guide ne quittait pas son bras. Il avait la sensation que son corps était devenu la simple manifestation de quelque puissance inconnue qu'il ne pouvait contrôler. Il était devenu un non-être, une immobilité. Il existait au centre du non-être. Il se laissait conduire au long des rues de la cité, suivant un chemin si familier à ses visions que son cœur en était glacé de chagrin. « Je devrais savoir ce qu'Alia a vu, » pensait-il. « Je l'ai vue moi-même tant de fois. Mais elle n'a pas pleuré. Elle aussi a vu les alternatives offertes. »